Geneviève Peterson.
Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
Concernant l'influenceuse décédée Gabi Petito, là, des objets de son ex-fiancé qui ont été retrouvés, là, juste pour vous rappeler un peu les faits. Gabi Petito qui était disparue, on a retrouvé malheureusement son corps dans un parc américain. Histoire assez nébuleuse, là. Le petit ami en question avec qui était en voyage, faisait la van life, était mystérieusement disparu, collaborait pas non plus beaucoup avec la police, là. Aux dernières nouvelles, il se serait terré dans un parc américain. C'est ce qu'on pensait. C'était les hypothèses qui étaient avancées. Donc là, on a retrouvé des objets de l'homme en question. On verra évidemment comment tout ça va se poursuivre. On va vous tenir au courant. On est avec Luc Laliberté. Salut, Luc.
Oui, salut Geneviève.
Bon, on se parle de Thomas Jefferson, une statue de M. Jefferson qui a été retirée à New York. Puis ça, c'est un sujet avec lequel, des fois, on n'est pas d'accord, le déboulonnage des statues. Donc, j'anticipe un peu de brasse camarade.
Écoute, c'est toujours un beau sujet pour moi. C'est un sujet délicat, mais comme historien, j'aime bien, tu le sais, commenter la politique américaine. Mais comme historien de formation, c'est toujours un beau sujet. Et dans ce cas-ci, tout particulièrement. Donc, c'est le conseil municipal de New York, donc la mairie qui dit, ça fait 20 ans qu'on exerce des pressions pour ça, on va retirer le statut de Thomas Jefferson de la salle de délibération du conseil. Donc, on devine qu'il y a des élus, des hispanophones, des noirs qui ont dit, écoutez, nous, comme Jefferson a été propriétaire d'esclaves. On a de la difficulté à imaginer ou à siéger là. On considère que c'est un manque de respect. Et après des démarches qui se sont échelonnées sur 20 ans, on dit OK, on va l'enlever, la statue. Il y a un autre débat qui est maintenant à savoir où va-t-on l'envoyer, que va-t-on en faire. À partir du moment où c'est la sensibilité des élus et que c'est décidé à l'unanimité en passant, cette recommandation, cette décision-là, on ne peut que se soumettre. Mais même comme historien, on fait toujours très attention, bien sûr, aux sensibilités des gens qui sont impliqués dans ces décisions-là. Puis là, à l'unanimité, on dit, on y va, on la retire.
On n'est pas dans un cas où ça vient d'un groupe ou ça vient d'une personne. Et là, ça fait boule de neige sur les médias sociaux. Là, on a une entente, finalement, entre un groupe de personnes qui est directement impliqué, qui travaille là tous les jours et tout le monde s'entend pour dire, nous, on veut que ça parte.
Voilà. Donc, la première chose, c'est qu'on en prend note. On prend acte de ça.
Oui.
Comme historien, ça m'a quand même poussé à m'interroger parce que quand on effectue ce genre de geste-là, puis c'est un geste qui est assez fort, là, de dire, on a pris, c'est pas personne, hein, Thomas Jefferson, là, c'est un des esprits les plus brillants, les plus éclairés, les plus ouverts de sa période. Écoute, autant pour l'État de la Virginie que pour l'Université de la Virginie, que pour les États-Unis ou même pour la France, Thomas Jefferson, c'est un grand. Puis on imagine mal les États-Unis de 2021 sans une contribution de Thomas Jefferson. Maintenant, là où il devient très intéressant, Jefferson, quand on observe les mouvements de revendication, les remises en question de 2021, c'est que oui, il a bel et bien eu une plantation, Thomas Jefferson, et il a même eu une maîtresse noire. Donc, il avait hérité d'une jeune esclave noire. Lors de son mariage, son beau-père lui laisse ça. C'était un peu sa dot. Donc, un groupe d'esclaves. Et il va se lier, après le décès de sa femme, à une de ces esclaves-là, Sally Hemings, dont on reconnaît l'existence. On va maintenant au musée de Jefferson, qui est à Monticello, donc qui était le domaine là, de Jefferson. Il y a une exposition réservée à Sally Hemings, que certains ont même déjà baptisée la première dame noire des États-Unis. Donc, ça devient complexe. Ça montre bien sûr qu'à l'époque, c'est une relation qui est très trouble entre les propriétaires de plantations et les Noirs, qui sont des esclaves. Ce qu'on a tendance à oublier aussi de Jefferson, puis dont on parle à peu près jamais, c'est que oui, c'est le rédacteur de la Déclaration d'indépendance, mais quand on l'envoie, Jefferson, là, on est à Philadelphie, puis on parle de se séparer de l'Angleterre, là, on sait que ça va mener à une guerre, on envoie Jefferson s'isoler, puis on lui dit, tu vas nous pondre le texte, le brouillon de la Déclaration d'indépendance. Jefferson a un malaise avec, il a beau être propriétaire d'esclaves, George Washington et lui ont un malaise avec le fait de posséder d'autres êtres humains. Et on parle de la traite des Noirs et de l'esclavage. Et Jefferson, on l'oublie, dans la première version de la Déclaration d'indépendance, c'est un Virginien, propriétaire d'esclaves, il dépose un paragraphe dans la Déclaration d'indépendance dans lequel il condamne très sévèrement l'esclavage.
L'époque, Luc, là, parce que me décris quand même des choses qui sont impensables aujourd'hui, évidemment, là, mais pour l'époque, on peut le qualifier quasiment de nuancé, même plus que ça, là.
Voilà, tu vois, il y a déjà à l'époque, les marginaux de l'époque, là, ce sont ceux qu'on appelle les abolitionnistes, c'est-à-dire ceux qui veulent l'abolition de l'esclavage parce que c'est mal de posséder un autre être humain. Et il y a quelques abolitionnistes très marginaux qui disent, entre blanc et noir, il n'y a pas de différence. Mais c'est ça qui est la marginalité à l'époque.
Oui, mais Jefferson, il n'est pas abolitionniste, là, il en possédait des esclaves.
Non, voilà. Sauf qu'il réfléchit et il va en libérer de ses esclaves, okay, dont Sally Hemings, qui devient libre à sa mort. Il y a donc toute cette réflexion autour de l'esclavage dont on devrait s'inspirer.
Mais elle devient libre à sa... Excuse-moi, elle devient libre, mais à sa mort. C'est comme, il l'a pas libéré de son vivant.
Non, il a libéré des enfants de Sally Hemings de son vivant, et il va libérer Sally Hemings à sa mort.
Ouais.
Donc, mais déjà, pour l'époque, quand on remet ça dans le contexte de son temps, ça fait pas de Jefferson un héros qui est sans faille. On parle pas d'en faire un saint, mais c'est déjà quelqu'un qui est un précurseur. Et ce sont des pressions politiques des États esclavagistes, dont la Virginie à l'époque, qui vont faire dire, finalement, aux gens autour de la table puis autour de la Déclaration d'indépendance, commençons par faire la guerre à l'Angleterre, puis on rejasera de l'esclavage ensuite. Et malheureusement, ça va attendre la fin de la guerre de sécession. On va qu'on en discute pour l'abolir dans les faits. Mais donc, j'ai trouvé ça un peu étrange que ce soit ce personnage-là auquel on s'attaque. Il y a qu'on s'en prenne à des généraux sudistes, par exemple, ou à des suprémacistes blancs au moment de la guerre de sécession. Ça m'apparaissait comme assez clair. Et qu'un noir américain passe avec ses enfants devant une statue de quelqu'un qui a asservi ses ancêtres et que ce soit payé avec des fonds publics, je me dis, il y a des questions à se poser. Il y a un malaise qui est bien réel. Jefferson, c'est plus complexe. Je trouvais que c'était plutôt une occasion d'échanger, de se donner un cours d'histoire.
Fait que ça t'étonne qu'on s'en soit pris à sa représentation.
Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je te disais, écoute, on en prend note, puis on se soumet à cette décision-là. On a convenu, c'est d'un commun accord à l'unanimité. On a dit qu'on déplace la statue de Jefferson. Mais je répète, moi, c'est l'identité du personnage qui m'a étonné. Je me disais, s'il y a un personnage qui peut servir à éduquer, dont on devrait discuter, puis qui peut nourrir des débats ou des réflexions, c'est bien Jefferson. Qu'on le retire, il y a 17 historiens de New York qui sont intervenus pour dire on pense que c'est pas une bonne chose. Et j'aurais tendance à me ranger de leur côté ou à adhérer à leur avis dans ce dossier-là.
Bon, on parlait de politique américaine avec Vincent Dessereau tantôt. Est-ce qu'on accorde trop de place à sa couverture dans nos médias québécois? Puis c'est vrai qu'en période électorale, ça prend beaucoup de place. Là, les élections américaines 2024, ça va arriver vite. Puis si on parlait autant de politique américaine, c'était beaucoup à cause de Trump. Mais là, c'est fou, là. Un nouveau sondage dont tu voulais me parler, là, qui place Biden et Trump à égalité pour cette élection à venir en 2024.
Puis écoute, juste un mot sur Vincent. J'étais malheureusement en classe avant. J'ai pas eu l'occasion d'entendre ce dont vous avez discuté.
On a parlé d'un livre là qui la politique américaine vue du Québec, quelque chose.
Ah oui, ben écoute, j'ai contribué, j'ai collaboré à ce livre-là.
Exactement.
Donc, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est drôlement important de couvrir cette politique-là, ne serait-ce que parce que on est tributaire de tout ce qui se passe aux États-Unis. C'est notre premier partenaire économique, puis culturellement, qu'on aime ça ou pas, ils ont eu une très grande influence et ont encore une très grande influence sur nous. Et c'est la raison pour laquelle, moi, que Donald Trump, dans un récent sondage, même s'il est un peu moins dans l'actualité, qu'on lui reconnaisse autant de chances de gagner en 2024 que Joe Biden, l'actuel président, on peut se dire on est loin du compte encore. Hein, M. Trump n'a pas dit officiellement qu'il allait être là. Joe Biden traverse une très mauvaise passe. D'ailleurs, il espère au Congrès être en mesure de faire passer ses fameux projets budgétaires, le financier, qui sont de la plus haute importance pour lui. Il est encore loin de la coupe aux lèvres, hein, comme on dit régulièrement. Mais ça nous indique que la base qui appuyait Donald Trump, ou le courant duquel s'est inspiré Donald Trump pour se lancer, c'est encore bel et bien là. Et moi, c'est une des craintes ou des peurs que j'ai, parce que les partisans de Donald Trump, nombre d'entre eux vivent dans un monde parallèle, ne vivent pas au 21e siècle et baignent dans un monde de désinformation qui est, à mon avis, épeurant. Et de voir que le pays pourrait encore prendre cette direction-là alors qu'il est déjà en retard pour relever des défis du 21e siècle, donc un retard pour lequel éventuellement le Canada va assumer des coûts ou dont on va assumer les conséquences, je trouve ça particulièrement perturbant. Mais donc, c'est certain, 2024, c'est encore loin. Mais 40 % pour Biden, 40 % pour Trump, ça veut dire que la polarisation est bel et bien encore là et que malgré les efforts de Joe Biden pour rassurer un peu les républicains plus mous ou les indépendants, il y a beaucoup de chemin à faire puis il y a beaucoup de pain sur la planche.
Mais c'est quand même absolument hallucinant que Trump réussisse à rester cette espèce de figure tellurique très, très présente dans l'imaginaire américain, dans l'imaginaire républicain. Bon, tu vas me dire, il y a du temps là, jusqu'en 2024, mais quand même. Que la liberté, merci beaucoup.
Un grand plaisir, Geneviève. Bonne fin de journée.